complice. Assez tremblé.
Monsieur le commissaire, je vais tout vous dire.
Garde à vue.
Garde à vue.
La nouvelle garde à vue.
Garde à vue.
Garde à vue, l'émission sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ouais. Vous demandez toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois.
Moi, ce qui me désarme vraiment totalement, c'est la gentillesse.
Française. Française.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Ah bon ?
Tu vas la fermer, ta grande gueule !
18h, l'heure du central, l'heure de votre mise en cellule hebdomadaire, l'heure du brushing au taser et du dîner à la bombe au poivre. Et nous sommes bien heureux de vous accueillir en cellule. Confort optimal et services de qualité pour vous emmener sur les sinueux sentiers empruntés par l'actualité. Ce soir, une émission spéciale puisque nous recevons Samuel Baudin et Alexandre Philippe, créateurs de la série The Lazy Company, dont la seconde saison a été diffusée sur la chaîne OCS. En mars dernier, The Lazy Company raconte l'histoire d'une bande de soldats américains pendant la bataille de Normandie. Et ces soldats sont tous plus foufous les uns que les autres, nous verrons ça. De service ce soir pour m'accompagner dans l'interrogatoire de ces écrivaillons qui maltraitent l'histoire, Vaujolier, l'avocat le plus chafouin du central, celui qui t'en donne du barreau même quand t'en veux pas, Maître Rollo. Bonsoir Maître.
Bonsoir commissaire.
Sa douce figure de fils à papa démoniaque amène indéniablement une touche de joie dans ce central et autour de la machine à café, Barnabé, notre stagiaire, nous rejoindra dans quelques minutes. Et enfin celui qui est derrière la vitre, celui sans qui tout cela ne serait pas possible, le technicien de ce central, l'homme à tout faire, un homme en or, Mathieu. Bonsoir Mathieu. Ici le commissaire Montrouge et cher détenu, bienvenue en garde à vue.
Moi aussi, je veux m'arracher en solo. Demain, je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Va savoir s'il n'y a plus moyen de trimer, s'il n'y a plus de boulot, plus à bouffer. Je vais les faire frétiller, moi, les carrosseries.
Mais comment tu causes, toi, Pinocchio ? Ils ont cru que t'as appris à causer comme ça, toi. Oh.
Mets ta flèche, bonhomme, où tu vas.
Pas de soucis. Mes petits macarons framboises, je suis très content de vous retrouver cette semaine, d'autant que la fin de la saison approche à grands pas, et vous savoir fidèle derrière vos postes à guetter nos frêles voix vous envoyer en garde à vue, eh ben c'est touchant. Vous l'avez vu, c'était sur tous les écrans la semaine dernière, le 6 juin, l'Occident au complet se tenait sur une plage de Normandie, regard tourné vers l'océan duquel, 70 ans plus tôt, la liberté déferla sur notre terre de France. Un tsunami fait de jeunes Américains à peine pubères, d'Anglais pugnaces et de bien d'autres nationalités. Ils souffrirent, ils moururent, ils burent la tasse, mais ils résistèrent. On connaît la suite de l'histoire. La libération, l'occupation de l'Allemagne, le suicide d'Hitler, Yalta et enfin, peut-être le plus important, Sardou qui chante les Ricains. Cette histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, est éminemment importante. Beaucoup des situations mondiales actuelles étant des conséquences plus ou moins directes de ce conflit. Et pourtant, derrière le grand récit, se cache toujours une petite histoire faite de rien, d'anecdotes, d'échecs et de petites victoires, d'amour et de rapines. Une petite histoire qui s'écrit dans le quotidien des hommes qui l'ont faite en temps de guerre. On y croise un ramassis d'incapables, de froussards, de cinglés, d'authentiques héros, d'amoureux, de cocus, d'épiciers et de marchands d'armes, et puis les autres, la majorité, ceux qui ont vécu les événements comme des Bernard l'ermite, planqués dans leurs coquilles. Et ce soir, nous mettons en garde à vue des gens qui se permettent de maltraiter l'histoire, celle à laquelle on ne touche pas d'habitude. L'histoire des combattants de la Grande Amérique, une Amérique qui se retrouve plus facilement dans « Il faut sauver le soldat Ryan » ou « Le jour le plus long » que dans ce programme télé. Si nos invités sont aujourd'hui incarcérés, c'est qu'ils ne respectent rien. Les personnages qu'ils ont créés sont d'insupportables bouffons, des idiots finis mais touchants. On croisera au hasard un sergent qui rêve de gloire mais passe son temps à mettre le pied sur des mines, un homme-femme qui finira par tomber enceinte, un jeune fougueux qui tombe amoureux de l'ennemi, un jeune binoclard puceau qui se révèle une bête de sexe au cœur fragile, mais aussi Captain America, Einstein et Hitler himself. Nous recevons donc ce soir en garde à vue les créateurs de la série The Lazy Company qui devront répondre de leurs ignobles forfaits.
Rose, c'est ma petite amie. Elle est jolie comme un cœur.
C'est lui qui m'a appris l'impolitesse. Moi, j'étais plutôt bien élevée avant de le rencontrer, hein, ce cochon de putassé de malheur.
Ce qu'il te faut, c'est une petite provinciale comme toi. T'achètes un F3 à crédit, tu lui fais des gosses.
Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas !
Bonjour, bonjour Samuel Baudin.
Salut.
Bonjour Alexandre Philippe.
Bonjour.
Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. Vous êtes co-créateur, l'un réalisateur Samuel Baudin et l'autre acteur également Alexandre Philippe dans la série The Lazy Company. La saison 2 a été diffusée sur OCS, la chaîne qui est sur le câble, en mars dernier. Ce sont 10 épisodes d'une vingtaine de minutes à chaque fois. Première question, déjà, ça va, vous êtes bien installé, les bandes sont pas trop inconfortables de la cellule.
C'est très bien, ça
c'est
va.
C'est très bien. L'air climatisé fonctionne, donc c'est déjà pas mal. Laissez-moi juste vous présenter Maître Rollo. Si vous ne l'avez pas rencontré, il sera votre avocat ce soir. Et planqué dans le coin, Barnabé, Barney, pour les intimes. Alors lui, il sert à rien.
Retard, hein,
voilà, mais c'est juste notre stagiaire, mais on l'aime bien quand même. Hein, Barney ?
Bonjour, mon amour.
Oui, je sais, ça fait plaisir de te voir, moi aussi. Alors, avant d'aller plus loin et de discuter plus en détail de The Lazy Company, je vous propose que d'écouter rapidement la bande-annonce de la saison 2.
Cher journal, quand le destin s'y met, il peut nous faire de vrais coups de pute.
L'armée des États-Unis d'Amérique attaque aujourd'hui l'ensemble de la Lazy Company.
Quoi ?
Mais j'ai rien fait, moi !
Bordel, on va tous se faire fusiller.
Mais non, on va pas se faire fusiller, lieutenant.
Mais bien sûr que toi, ils vont pas te fusiller, t'es enceinte !
Lieu de prise !
Il y a ça 3 semaines, un physicien allemand a disparu lors de son extraction.
Il n'y en a pas de chambre.
Les rapports indiquent qu'Adolf Hitler le forcerait à mettre au point une arme de destruction massive.
Diesel, le plus fort !
Ah, Diesel !
Pourquoi tu n'as pas entendu, là ?
Ça va faire extrêmement mal.
Tu me poignardais dans le dos, moi qui t'ai sauvé la vie.
J'ai jamais sauvé la vie.
Eh ben je le prépare.
Christine, c'est la veste de ma femme qui cache ta queue.
Allez-y, de retour dans la place, les gars. Et tout va redevenir comme avant.
C'est plus une histoire de libération, là. C'est une histoire de vengeance sanglante.
J'ai l'impression que mon cerveau est fabriqué pour faire de la merde.
Objection, votre honneur, c'est hors protocole.
Dans votre cul, l'objection.
Ce soir, j'ai la rage totale.
On est en enfer.
Bouillez les connards.
Alors, on vient d'entendre la bande-annonce de la saison 2 qui a donc été diffusée en mars dernier sur OCS. Alors, dans le dossier de presse que j'ai reçu de la part de votre attaché de presse, il est écrit que vous deux, Alexandre et Samuel, êtes créateurs de la série. Alors, en vrai, qui a créé quoi ?
C'est une question bien compliquée, ça. L'histoire de l'œuf et la poule.
Hein. Un peu, oui. C'est
non,
ça.
Qui a créé quoi ? En fait, c'est un vrai travail main dans la main qui s'est passé avec Sam, parce que c'est un univers qu'on a inventé. Il y a maintenant alors une saison, deux saisons, trois, ça faisait faire 4 ou 5 ans qu'on a commencé à imaginer ce programme. On a d'abord commencé à écrire des... on imaginait d'abord le programme comme un programme court, d'épisodes de 3 minutes. Donc on a développé notre univers, on a écrit des pilotes, qu'on a finalement tourné avec une boîte de prod à Tours qui s'appelle 6 pieds sur Terre. Et c'est suite à ces 4 pilotes qu'on a commencé à démarcher... notamment la société de production à Paris, Empreinte Digitale, avec qui on travaille toujours aujourd'hui, et qui eux ont dit bah voilà, on propose, on a un diffuseur, OCS, ils aimeraient en faire une série de 22 minutes, est-ce que ça vous dit ? Donc, nous on a dit bah ouais, parce que nous ce qui nous plaît c'est de raconter des histoires, donc si on peut avoir un cadre de jeu qui est plus large, où on peut tirer des intrigues plus longues et des personnages et des aventures et des ce qui leur arrive, ça nous intéresse plus. Et donc tout le travail s'est toujours fait. C'est toujours fait main dans la main. Il y a juste un truc où moi je dirais que j'interviens pas, c'est la mise en scène par exemple.
Voilà. D'accord.
Ça, ok, c'est pas moi qui fais. mais sinon, on a créé des personnages ensemble, on crée nos arches narratives ensemble, on a écrit nos scénarios ensemble. Sur les deux premières saisons, en tout cas, ça s'est passé vraiment
un travail
main dans la main
dès le départ.
Tout à fait.
Et c'est travailler sur cet univers, du coup, de récupérer cette grande histoire des soldats américains qui débarquent en France pour libérer le pays, etc. Et en faire un espèce de théâtre où plein de personnages un peu bizarres comme ça interagissent les uns avec les autres. C'est un univers dont vous êtes familier à la base ou c'est un délire au départ ? C'est d'où ça vient cette idée de s'intéresser particulièrement à la période ? C'est que ça n'avait jamais été fait ? Ça vient d'où l'idée ?
Ça a été fait mille fois. Enfin, l'idée, en tout cas, c'était pas d'être original du tout. Ce qu'on voulait, on voulait créer des situations. Enfin, on voulait créer une comédie d'aventure qui s'exprimait surtout par des situations et non pas par une manière de parler ou ce que tout le monde appelle des vannes dans le métier. On voulait pas créer une machine à vannes du tout. Ça nous intéressait pas. On voulait créer une comédie de situation, une comédie d'aventure, et surtout que ça soit pas sociétal. C'est-à-dire ne pas l'incruster dans un univers comme on connaît, que ça soit le bureau, ou le couple, ou la famille, ou les voisins. On voulait un contexte d'aventure, et on avait très peu d'argent en tout cas. Et donc on s'est mis à réfléchir à ce qui nous avait fait rêver avant, notre culture, d'où ça venait, tout ça. Et vite on est arrivé à se dire, il faut que ça se passe pendant, juste après le débarquement, quoi. Et on va suivre des Américains, parce qu'on a envie de suivre 4 soldats américains en France, et qui parleront français. Et parce que si un personnage, on en prend soin, on l'habille correctement, on le fait vraiment exister, si je le mets debout dans un champ, et ben, je suis en 1944.
Oui, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour...
Juste un peu de réfléchir vraiment, de voir où on est, de voir ce qui fonctionne, et puis d'arriver à servir du maximum de ce qu'on a pour nous emmener ailleurs. Et c'est vrai que cette période-là, elle fait travailler la fiction. Donc, bien sûr, il y a eu la réalité. Et nous, jamais on se place en disant on veut se moquer de la réalité. Nous, on voulait juste créer un univers fictionnel et un univers d'aventure. Et donc, ça s'est imposé assez vite.
Puis en plus, il y a un côté pratique avec ce temps de guerre. C'est que du coup, pour des scénaristes et des écrivains de séries, c'est quand même assez pratique de pouvoir inventer comme ça des situations en perpétuel changement. Parce que c'est quand même une période qui est troublée. Donc, ça permet d'être très libéré sur l'écriture aussi, j'imagine.
Ouais, c'est une des, mais c'est ce qu'expliquait Sam sur le contexte d'aventure. Quand on veut, enfin, parlons de nos références. Franchement, on voit où se place Indiana Jones. C'est juste avant la guerre, mais c'est les mêmes situations. On est dans un moment où il y a un progrès qui est quand même qui avance pas mal. On a des machines de plus en plus, tout ça. On a la sortie de la première guerre aussi. Il y a des contextes politiques qui sont compliqués, mais en même temps on voyage beaucoup. Et puis on fait des recherches et tout. Donc, enfin, pour nous, ça nous. C'est une inspiration qui laisse effectivement libre cours à beaucoup de choses. Et puis en plus, vu qu'on a quand même été baigné aussi dans cet univers, parce qu'on est quand même encore la génération où on a parlé avec des gens qui ont vécu cette période-là, pour nous, je dirais pas que c'est concret, mais je dirais que ça
parle en tout cas.
Ça nous parle à quelque chose. On parle pas de. J'aurais été vachement plus embêté de faire un truc qui se passe pendant la Révolution française, par exemple. Là,
ça aurait pu être très drôle aussi.
Ça aurait pu, mais en tout cas, voilà, on voulait aussi que ça reste.
Que ça colle un peu.
Ça reste assez proche de nous aussi, tu vois. Enfin,
Puis si on revient aux situations, en plus, une situation de guerre comme ça, forcément, les émotions, elles sont poussées aux extrêmes, quoi. Tu vas revivre toute ta vie en 3 minutes, c'est quelque chose va te tomber dessus, ou tu oublies tout ce que tu étais avant si tu rencontres quelqu'un. Ça pousse les gens dans des situations extrêmes, et ça, c'est forcément pratique aussi pour l'humour. Et ces situations, elles étaient presque offertes. Si tu prends quelqu'un qui n'est pas apte ou qui n'a pas le cerveau cadre, ou l'énergie pour se battre, ou le moral, et que tu le mets en milieu d'un champ de bataille, forcément. De le voir réagir, ça peut devenir absolument dramatique et terrible. Ou si tu décides de le traiter de l'autre côté, ça peut devenir très burlesque aussi, quoi. Donc voilà.
Il y a un côté, quand j'ai vu, moi, pour la première fois, un épisode de la série, j'ai eu immédiatement la relation avec MASH. Vous vous souvenez évidemment de cette série américaine, MASH, qui replace des militaires américains qui sont des médecins, des infirmières, dans un camp d'hôpital militaire pendant la guerre de Corée. C'est une série qui est une série culte, avec un générique culte, des acteurs qui sont tous devenus cultes, des répliques qui sont devenues cultes. Mais la série avait un fond, au moment où elle était tournée, de revendications politiques, et c'est là que s'arrête la comparaison, finalement. Parce que votre série est absolument pas revendicative ou sociétale, ou voilà, elle met pas en lumière ces choses-là, quoi.
Alors pas du tout. là, on plaide coupable.
Ouais. Non, au contraire.
C'est même complètement volontaire de notre part. On n'a absolument pas la prétention déjà de faire de l'histoire, enfin de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire un cours d'histoire, tout ça. Et en plus, on veut raconter des histoires et des histoires qui sont complètement fictionnel. C'est ça qui nous intéresse. C'est du fantastique, c'est de l'aventure, c'est d'autres choses. Il y a des gens qui font des trucs vachement bien dans des choses beaucoup plus concrètes. On voit, enfin, une source d'inspiration pour nous énorme, ça a été la série Band of Brothers, par exemple, qui est extrêmement, extrêmement renseignée et pour le coup qui colle beaucoup à l'histoire. Et
j'allais en parler aussi sur le niveau réalisation. Moi, j'ai trouvé des ponts. Entre les deux.
Ça, probablement, faudra parler à l'intéressé. Mais en tout cas, nous, c'était pas du tout par là qu'on voulait aller. C'est aussi pour ça qu'on fait de la comédie, d'ailleurs. Hein. C'est difficile de dire on fait de la comédie en faisant.
En collant complètement
à ce qui s'est passé pendant la guerre.
Ou sinon, il faut faire le mur de l'Atlantique. C'est un très bon film avec Bourville.
Oui, mais La Grande Vadrouille, c'est un très bon film. Mais tout d'un coup.
Oui, c'est autre chose.
Voilà, c'est pareil, c'est de la fiction. C'est complètement inventé ce qui s'est passé. Ouais. C'est deux parachutistes anglais qui arrivent, puis on les emmène au bain, puis machin, puis le chef d'orchestre, et tout d'un coup, c'est complètement irréaliste. Mais c'est pour ça que ça marche.
Mais après, il n'y a pas de. Contrairement à MASH, où il y a une revendication politique, même par rapport à ce qui se passait au moment de la diffusion de la série, nous, on n'en a aucun. Il n'y a pas de jugement politique, de revendication politique ou sociale même.
À l'intérieur.
Il n'y a pas de critique. C'est pas. C'est vraiment non, parce que la fiction pure peut porter un message. Nous, on ne porte pas de message ni politique, ni social. Et après, par contre, sur la morale, de toute façon, toute histoire, elle a une morale quelque part, donc oui.
Oui. Enfin,
même s'il y a plusieurs penchants.
Voilà. Toutes les questions d'interprétation dans la morale. On se quitte quelques instants avec quelques notes de musique, et puis on revient en direct dans Garde à vue pour continuer à questionner nos deux invités autour de la Lazy Company. Et puis Maître Rollo, bien évidemment, prendra la parole pour les défendre. Ils en ont bien besoin. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 FM et nous sommes toujours avec nos invités Samuel Bodin et Alexandre Philippe, créateurs de la série The Lazy Company. Alors vous savez, chers auditeurs, dans toutes les équipes, il y a des maillons forts et d'autres plus faibles. Rollo, lui, est notre avocat, il défend à tour de bras les suspects que l'on met en boîte. Par conséquent, en tant que fonctionnaire de police, l'avocat, moi, il m'énerve. Mais si vous grattez un peu sous la surface, vous découvrez l'humain sous la robe. Rollo n'est que ça, après tout, on sent sa simplicité quand un slip de coton petit bateau adoucit le caractère de l'homme de droit. Et cette semaine, Rollo, vous êtes commis d'office pour défendre l'équipe de la Lazy Company en leur faisant, je crois, une suggestion de casting.
Oui, c'est plutôt ça. Hein. Je vais me faire plus agent qu'avocat cette
pour
semaine.
Pour bouffer à tous les râteliers.
Oui, après, je vais reprendre un peu toutes les personnalités que j'ai défendues cette année, hein, toute cette saison, et je vais essayer de les refourguer. Hein, monsieur le commissaire, j'ai regardé quelques épisodes de la Lazy Company et donc je profite du fait que le réalisateur soit sur ce plateau pour lui proposer d'agrandir sa troupe. En fait, j'essaye donc de trouver des places à certains de mes clients et surtout politiques.
C'est gentil de votre part, ça.
Ah, mais c'est mon grand cœur, hein, c'est sûr comme ça.
C'est l'insertion, ça.
En effet, en voyant donc, cette bande de soldats incompétents ayant pour mission de sauver la France, j'ai tout de suite pensé à une autre bande de sous-doués qui a d'ailleurs qui a à peu près la même mission, hein, sauver la France elle aussi. J'ai pensé à mes clients de l'UMP. D'ailleurs, si vous cherchez un décor de champ de bataille pour tourner certaines séquences de la prochaine saison de Lazy Company, vous pouvez sans problème louer le siège de l'UMP dans le 15e qui est en ce moment un véritable champ de mines. J'ai donc quelques profils à vous soumettre, hein, si vous cherchez des alternances ou des doublures à vos personnages. À commencer par François Fillon, hein, le fidèle lieutenant, qui sous ses airs de gendre idéal est le roi de l'explosif, capable de dynamiter tout sur son passage, même son propre parti. Alors, il y a aussi le général Sarkozy, un vétéran de la dernière guerre, où il a perdu toute la partie gauche de son cerveau. Il aime répéter qu'il a perdu une bataille, mais pas la guerre, et ne vous fiez pas à sa petite taille, il peut être terrible. Je vous propose aussi...
Il y avait des chiens dans l'armée, hein, des chiens énervés.
Je vous propose aussi le colonel Copé. Alors, attention, ne lui confiez pas l'intendance.
R. Copé,
c'est pas mal. Hein. Donc ne lui confiez pas l'intendance, il rationalisera tous les pains au chocolat des troupes et mettra un bordel pas possible dans les comptes militaires. Enfin, pour terminer ce quatuor, le légionnaire Buisson, qui contrairement à ce que peut laisser penser son nom, n'est pas un as du camouflage, surtout en matière de mouchard. Attention, ne lui confiez pas la communication. Alors, j'en ai aussi pour l'autre camp, hein, le soldat DSK par exemple, un tireur d'élite reconnu qui ne pactisera jamais avec l'ennemi ou juste le temps d'une nuit. Et même si vous êtes en galère au niveau des effets spéciaux, là je m'adresse donc à vous, hein, très particulièrement, il peut vous faire l'hélicoptère dans le plus simple appareil. Alors ça vaut pas Avatar, mais c'est très imagé, vous verrez. Alors, autre rôle, j'ai aussi un parachutiste, hein, le sergent Désir, qui, après un échec cuisant à un poste, peut être parachuté de la plus belle des manières à un autre avec une promotion en prime. Enfin, l'adjudant Montebourg est le roi de la débrouille. Il vous trouve n'importe quoi sur le sol français au marché noir, même si une marinière ou un robot mixeur Made in France n'est pas très utile en cas de guerre. Alors, si vous cherchez quelqu'un pour faire
On ne sait jamais.
Hein. La marinière, on ne sait jamais. Ouais. Le mixeur.
C'est pour passer incognito dans une réunion de pêcheurs au Guilvinec, ça marche.
Alors, si par exemple vous cherchez quelqu'un pour faire un haut gradé allemand, il en faut, hein, des hauts gradés également. Alors, j'ai tout de suite pensé à Jean-Marie, hein, qui fera très bien l'affaire. Alors, il fait très bien l'accent allemand et a quelques punchlines tout à fait saisissantes,
mignonne.
Hein, voilà, qui rendra la série peut-être pas forcément très sympathique, mais à coup sûr, ça fera fureur. En plus, pour que vous puissiez faire des économies, il peut venir avec ses propres costumes de cette période. Il les collectionne, hein, il en a plein. Voilà. Alors, s'il vous plaît, embauchez-les. Hein, ils seront mieux là dans une fiction qu'au gouvernement. Alors, ils sont déjà incapables de gérer la France, donc pas sûr qu'on gagnera la guerre avec eux, mais au moins, on rigolera bien.
Merci beaucoup, Maître Samuel. Ça vous intéresse, un Jean-Marie en fureur?
On va réfléchir.
Une incrustation, une image subliminale. Vous savez, ces espèces de mythes urbains d'images subliminales, on ne sait jamais. Ça peut fonctionner. Merci, Maître.
De rien.
Allô? Le commissaire Benoît? C'est moi.
Le police relaxe le contrôle du physique par le moral.
Ah, mais je sais bien que c'est vous.
Il n'y a vraiment qu'à Paris qu'on voit ça.
Je disais, le commissaire Benoît, point d'interrogation. C'est moi, virgule.
Ne fous pas de ma gueule, Pivert.
Non, je m'appelle pas virgule.
De la cave au grenier, vous m'entendez? De la cave au grenier!
18h24. Mes amis, chers collègues, chers gardés à vue, vous savez que la police fait un travail remarquable pour permettre aux citoyens de vivre dans la paix, la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas grand-chose de plus bout en train qu'un flic en fonction. On est tous d'accord avec cette idée. Et pour vous le prouver, cette question, le 8 juin dernier, nos collègues ont retrouvé à Grigny, ville charmante de la banlieue parisienne, un animal un peu particulier. Animal qui a été enlevé avant d'être retrouvé par nos collègues. Selon vous, de quel animal s'agissait-il?
Un slip?
Non.
Un animal qui s'est échappé d'un zoo?
Qui a enlevé d'un zoo.
A enlevé d'un zoo.
Ouais, enlevé d'un zoo.
Est-ce que c'est un animal aquatique?
Non. Non, à Grigny, il n'y a pas la mer à Grigny.
Toujours des petits problèmes géographiques. Dès qu'on sort de Paris,
oui, je sais,
mal.
C'est compliqué pour vous. Non, c'est un animal.
Un animal rare?
Un peu.
Est-ce qu'on peut en faire des manteaux?
Il est toujours possible de faire des manteaux avec un animal.
Ah, un chien alors?
Non, c'est pas un chien, c'est un peu plus haut qu'un chien.
Un renard?
Non, c'est pas un renard.
Dans un zoo pourri, il y a des renards.
Vous avez déjà vu un renard et un chien côte à côte?
C'est un animal qu'on peut voir dans un cirque.
Oui, bah, apparemment, oui.
Oui.
Parce qu'il a été enlevé dans un cirque.
Ah, c'est pas un zoo alors.
Une buse fermière.
Non plus.
Un lama.
Non, pas un lama.
Un lion.
Non plus.
Un tigre.
Non, c'est beaucoup plus commun. C'est un truc.
C'est pas drôle.
Ouais, c'est beaucoup plus commun.
Si c'est commun, c'est de la merde ta question.
Bah non, c'est pas de la merde. C'est hyper important. Faut être con pour enlever un animal dans un zoo.
Ah,
c'est...
ok. Un petit animal, un pingouin.
Non, c'est pas un pingouin. C'est une pouliche.
Une poule.
Ah bah non, c'est. Non, c'est pas... c'est on ne dit pas pouliche pour qualifier une poule. Une poule est une poule. Non, c'est un
une
poney.
Poule irlandaise. Une
un poney.
Un poney,
un poney de 80 cm qui s'appelle Pouliche.
Ah, d'accord.
C'est le nom du poney qui a été enlevé. J'ai dit zoo, c'est pas un zoo, c'est un cirque, pardon, excusez-moi, au cirque Zavatta le 7 juin dernier.
Ah, le cirque Zavatta. J'ai une affiche du cirque Zavatta.
Dérobé au cirque Zavatta, Pouliche, la pauvre, alors que le cirque était en stationnement à Étampes dans l'Essonne, a été enlevé. Et nos chers collègues, suite à une plainte du cirque, ont réussi à la retrouver dans les rues de Grigny. Et anecdote rigolote, elle a été retrouvée parce qu'elle a été aperçue par un habitant d'un quartier de Grigny, tenu en laisse par un homme dans une rue. Et quand l'homme a été interpellé par la police, l'homme a expliqué avoir acheté l'animal pour faire plaisir à ses filles. Donc tenir un poney en laisse, c'est concept quand même. C'est assez étrange.
Il y a eu la même chose à Bordeaux avec un lama.
Ah non, ça on sait
mais
pas.
Est-ce que Pouliche donne les résultats de la Coupe du Monde? C'est ça qu'il faut savoir.
Ah, pas encore, on sait pas ça.
Elle pronostique pas comme.
Mais c'était quoi? C'était un poulpe en Allemagne
poulpe, ouais. Paul le poulpe.
Paul le poulpe. Et oui, parce qu'on a un éminent spécialiste du football à cette table. Il est très connu pour ça. Mais Pouliche a été rendu à ses propriétaires. Cette histoire se termine donc très bien et c'est tant mieux.
Alerte générale! 24 heures sur 24!
Dès que les Germains auront quitté la banque, ils seront pris en chasse par nos véhicules qui ne les lâcheront plus. Agissant sur eux comme un venin.
D'où le nom de l'opération, monsieur.
Cobra.
Retour au central avec nos invités. Ça va toujours comme vous voulez ?
Impec.
Nickel.
Super.
Bon, bah parfait. Une question d'ordre un peu plus personnel avant d'aller plus loin. C'est pour le dossier qu'on le remplit. Est-ce que vous avez déjà eu maille à partir avec la police, de façon générale ? Des délinquances quelconques, plus jeunes
Ah si, ça nous est arrivé, on est une jolie anecdote.
Alors allez-y, nos auditeurs attendent.
Ah, c'était nous étions à Tours à cette époque-là, avec donc mon complice Samuel Bodin, et on avait une amie très proche à nous, qui était allé dans un magasin pour regarder je sais plus quoi, c'était un mec qui vendait des tu te souviens pas de ça?
Hein,
qui vendait des échecs, des machins, des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Et elle vient, elle regarde et tout, puis elle s'en va sans rien acheter, quoi. Ouais. Et le mec lui l'insulte de tous les noms en partant, un truc extrêmement violent.
Gratuit,
on avait quoi? On avait 18-20 ans, quoi.
Ouais.
Et du coup, nous on se dit, parce qu'on est des redresseurs de tort, on se dit qu'on va aller faire quelque chose. Et on avait mis en place une espèce d'imposture où Samuel jouait un adulte un peu retardé. Moi, je faisais son éduxpé et il était fils d'un espèce de type pété de fric.
Ah oui,
et c'était son anniversaire. Et on rentrait dans le magasin et vu qu'en fait il avait des échiquiers en verre comme ça qui l'entassaient les uns sur les autres, on est rentré. Alors ça me faisait baver tout ça. Moi je disais voilà, donc il veut un cadeau, voilà, je sais pas, je vais regarder ce qu'il veut, par contre faut lui montrer ce qu'il veut, quoi. Et donc on s'amusait à demander au gars de
tout sortir,
c'est-à-dire d'enlever les pyramides de jeux d'échecs pour choper le truc du dessous, quoi. Et pour au final dire lui il fait genre, et puis en fait il en voulait pas, quoi. Il en veut pas finalement, remontrez-nous plutôt ça. Alors, il nous a tout déballé et puis au final on fait bon bah désolé, on s'en va, quoi. Et là on s'en va et le type avait chopé la supercherie, il commençait à nous courser dans la rue, il court après, ah non, on se met à courir, on se dit merde, on se sépare et finalement il en a suivi un, il a suivi celui qui pensait être le plus faible, il a suivi Sam. Et du coup on est tous revenus, tout ça, il a croisé des keufs, il nous a envoyé des keufs, tout
ça,
et on est allé... On est allé s'expliquer une semaine après à la police en expliquant que voilà, on lui avait fait une blague et que parce qu'il avait été désagréable avec quelqu'un qu'on connaissait. Et c'est pas aller plus loin, mais.
Les collègues ont été sympas. Ça les a fait marrer, peut-être.
Bah, c'est-à-dire que le type, en fait, a avoué devant nous aux flics qu'il avait des petits problèmes nerveux. Et, puis, et du coup, le flic nous a regardé en disant bon, on va aller à faire classer, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, à part soulever des
échiquiers en vrai.
Mais bon, on s'est retrouvé à aller s'expliquer de ce truc-là. Ouais. Et quand on a 18-20 ans, on se dit oh putain, merde, on est assez calme quand même, sinon.
Bah, à Tours, c'est calme, quand on est là.
Ouais.
Tranquille. Tourangeau, alors.
Yes.
C'est ouais. des choses qui arrivent. On va pas, parler
de tour. C'est marrant de vendre des jeux d'échecs à tour.
Alors il a fermé le gars depuis.
Peut-être à cause de ses problèmes nerveux.
Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a. Je crois que c'est un bar à la place maintenant pour changer.
Voilà, ça c'est plus correct. Ça nous parle un peu plus. Revenons à la Lazy Company. Alors il y a tout un bestiaire qui apparaît dans la série. On croise Hitler forcément. On type complètement hystéro le père Hitler. On croise aussi Einstein qui est prisonnier d'une espèce de docteur fou, un type complètement dingue. Il y a une générale dans la saison 2 qui est une espèce d'énorme bonne femme un peu nymphète. Mère elle-même d'une fille psychorigide dont tombe amoureux un des héros. Bref, c'est un vrai bordel. Et en fait, quand on prend les personnages, ça fait un peu chaque personnage fait un peu cliché et fait un peu personnage populaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu quand on pense à Hitler, on l'imagine comme ça.
Ouais, le but c'était de créer des personnages très dessinés, pas des parodies d'eux-mêmes, mais qu'ils aient vraiment des gros traits, des personnages de bande dessinée. Et après de s'amuser à les nuancer à mort, c'est-à-dire de se dire oui bon d'accord celui-là je l'ai compris, il est comme ça. Et après d'un seul coup de rentrer dedans et de se dire ah oui il y a quand même ça, il y a quand même ouais. ça, il y a ça que j'avais pas prévu, ah mince il a ça, il a ça, il a ça. Et puis finalement qu'on arrive si possible à emmener les gens avec lui. Mais on a fait la même chose de nos quatre héros au début, ils sont très, très dessinés pareil, petit à petit on rentre et on écarte. Et on a fait la même chose avec Hitler. On a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé parce que c'était plutôt compliqué. Et moi, je voulais que ça soit un vrai personnage de bande dessinée, un vrai méchant de bande dessinée. Et ce que j'avais envie, c'est qu'on se rend compte, au-delà de son côté hystérique et imbu de lui-même, qu'il était encore plus dangereux et encore plus dangereux et encore plus dangereux, et on espère aller encore plus loin. Et de se rendre compte que c'est la plus grande des ordures possibles. Ouais. Et que par contre, dès qu'il se pointe à l'image, on se dit ah, purée, le revoilà. Un peu comme un méchant de chez Disney, en fait.
Ouais, mais, qui revient régulièrement.
Mais qui part en vrille, quoi, et qui est inarrêtable dans le mal, quoi.
Et puis il y a une scène absolument, qui m'a fait énormément rire, où Hitler est dans une espèce de château manoir, un peu perdu, et il débarque en armure gothique.
Ouais. C'est un goûter costumé.
Ouais. Ouais.
Et il est conscient d'avoir le meilleur costume.
Ah bah oui.
Parce que de toute façon, personne.
Ah bah son costume déchire. C'est...
Bon bah on lui dira.
Ouais, il a une armure formidable. On a un stagiaire qui imite très bien Hitler. Il vous l'imitera hors antenne tout à l'heure. Il fait ça divinement bien.
Mamie n'écoute pas ce qu'il dit.
Si, tout le monde le sait, vous êtes même filmé, stagiaire, c'est horrible. Sur le tournage, comment ça se passe? Parce que quand on regarde la série, on a l'impression d'une bande de potes qui s'amusent beaucoup. C'est vrai ou c'est
si,
ce que vous arrivez
si,
à faire
ça,
passer
ça s'amuse, mais dans une rigueur de travail qui doit être extrêmement rigoureuse.
On dirait le socialisme gloriant du moment.
Oui, je m'en revendique complètement. Non, mais en fait, on a un cadre de travail qui est... on a très très peu de temps pour tourner tout ce qu'on a à faire. Et évidemment, comme disait Sam, vu qu'on n'a pas voulu faire quelque chose qui se passait dans un appartement, sur un canapé avec une caméra toute fixe, mais qu'on a envie qu'il se passe des choses, voilà. Donc il y a du costume, il y a du machin, il y a de l'extérieur, des fois il fait beau, des fois il fait moche. Tout d'un coup, pouf, il y a un tank, il faut gérer avec le tank, voilà. Ouais. Donc vu qu'on a eu envie de ça et qu'on a un cadre quand même assez modeste, on essaie de repousser un peu les murs pour avoir un peu d'ambition et de faire ce qu'on a envie et de le faire le mieux possible en mettant nos tripes. Donc nous on s'éclate énormément à faire ça. Je crois que on a une équipe qui s'amuse beaucoup, on a des acteurs qui s'amusent beaucoup, même si parfois on peut avoir la frustration de se dire je voudrais bien une prise de plus, mais on l'a pas, tant pis. Mais en tout cas ça se passe plutôt très bien au niveau des équipes, ça se passe très très bien et tout le monde y prend beaucoup de plaisir. Mais par contre on est obligé de rester dans ce cadre assez rude, parce que sinon on va pas pouvoir faire ce qu'on veut, et faut qu'on ait le temps de faire tout ce qu'on a envie, quoi.
Parce que le tournage pour filmer 10 épisodes de 20 minutes, c'est combien de temps à peu près ça vous
prend? On tourne 5 semaines avec 5 jours par semaine.
D'accord.
Voilà, donc les heures sont toutes payées, donc il faut pas dépasser. Donc en 8 ou des fois 9 heures de travail, c'est ça, par jour, on tourne jusqu'à entre 9 et 13 minutes effectives par jour, ce qui est énorme.
C'est énorme, ouais, c'est énorme.
Ouais, on en est même allé jusqu'à des journées à 42 voire 46 plans. On est content d'être là, mais on ne rigole pas, quoi. Ça travaille à une vitesse dingue et tout le monde est et au cordeau, et que ça soit les comédiens comme la technique. Et sinon, c'est pas possible de rentrer ça, en fait.
Et c'est tourné où ? Ça, c'est un décor de champ à perte de vue.
Et c'est tourné en région centre,
d'accord,
en Touraine.
En région centre.
Ouais.
C'est pas en Normandie ?
Non, je suis désolé. C'est dans le Morson, dans l'histoire. Non, on tourne là-bas parce que, vu qu'on tournait en extérieur et que moi, j'avais pas envie que ça ressemble à chez derrière maman, tu vois. Il y a vraiment un gros travail de repérage pour arriver à trouver des lieux qui fonctionnent, qui sont, entre guillemets, en toute modestie, cinématographiques autant qu'on le peut, quoi. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, ça demande aussi de se déplacer. Et donc, c'est une perte de temps, donc une espèce d'organisation...
De dingue.
Exactement.
Et du coup, le tournage, il y a le tournage de la troisième saison qui va s'effectuer. Ça commence quand ?
On commence mi-novembre.
Mi-novembre, pour une diffusion comme l'année dernière en mars ?
À peu près, grosso modo, ça va être ça. Oui.
Dans ces eaux-là, quoi.
Oui.
Okay.
Donc Orange est content, alors ?
Orange est content, ouais.
Oui.
Ouais, ça se passe bien.
Vous avez un retour sur le nombre de vues, ou ils s'en fichent un peu, ils aiment ce que vous faites?
Non, il nous faut un retour, mais en fait c'est un retour qui est sur les chaînes du câble, qui sont des réseaux comme ça privés, donc la télé d'Orange là, en l'occurrence. On calcule pas l'audimat comme sur France 2, sur tout ça. C'est des calculs qui se font pas, parce que c'est des calculs qui ont pas lieu d'être, en fait. Par contre, ils nous font souvent des retours sur ce qu'ils appellent le catch-up ou la VOD ou des choses comme ça. Le catch-up, ouais. C'est,
moi, c'est un truc que je mets avec mes frites.
Ouais, c'est ça. Bah.
Pas du tout ça.
Non, c'est un peu comme la VOD, c'est-à-dire que tu prends l'épisode que tu veux, tu le mets quand tu veux.
D'accord.
Dans une espèce de. Voilà, bon, ils ont une base où ils les ont pendant très longtemps, en fait, parce que oui, ils ont les droits donc de diffusion. Donc
Et sur les retours des auditeurs, des téléspectateurs, vous arrivez à sentir un peu la température, ou vous êtes assez éloigné de ce qu'on vous dit, des retours que vous avez
et... Non, c'est même ça qui est le plus important, je dirais. Et non, on a des retours, on en prend compte, on essaye de, parce qu'on apprend, nous c'est notre première série, donc c'est pour ça que la saison 1 est différente de la 2, et la 3e sera pas pareille non plus. Donc non, on a des bons retours, je pense que les gens... En fait, on a pris un risque sur la saison 2, c'est d'abandonner tout ce qui était humoristique, j'allais dire obligatoire, ça veut dire avec un espèce d'humour à tempo régulier, en se disant dans chaque épisode il y a telle situation, et petit à petit la saison 1 on sent qu'elle devient un peu moins anecdotique, elle commence à avancer un peu plus, et quand on est arrivé à se dire bon, on fait une saison 2 avec Alex, on s'est dit nous on veut vraiment aller là-dedans, quitte à des moments où on rigole plus du tout, mais vu qu'on est avec eux de toute façon on s'en fiche, donc on a eu des retours qui nous disaient vous êtes sûr ou quoi, on a foncé là-dedans parce que les producteurs nous suivaient, parce que CS nous suivait. Et on est content parce que dans la saison 2, les gens la trouvent déjà plus drôle, alors que si on regarde vraiment, elle l'est moins. Enfin, en tout cas, on ne cherche plus ça. Et sont plus touchés. Donc, je pense qu'on va continuer là-dedans. Donc, on se sert vraiment de ce qu'on nous dit, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre.
Ouais, parce que la série vit et évolue en fonction de votre expérience et de ce que vous voulez faire aussi de ces personnages. C'est
bien sûr.
Normal.
Mais c'est marrant parce qu'il y a une référence dont on n'a pas parlé, pour moi, qui est évidente quand même, c'est la série Kaamelott.
J'allais c'est-à-dire en parler plus tard, maître, mais parlez-en.
Non, mais je te bousille ton truc, c'est ton conducteur. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pour moi, ça saute aux yeux, la remise dans le contexte. C'est vrai que les premières saisons de Kaamelott, c'est des décors très simples. Ça repose beaucoup sur la mise en scène et le jeu d'acteur. Et donc, j'y pense. Et dans l'évolution, en plus, de la série, c'est un peu pareil, puisque Alexandre Astier, on voit bien qu'au bout d'un moment, il dit « Bon, on va arrêter de faire que des vannes, et moi, je veux de l'histoire. » Et voilà, donc on ressent un peu ça. Alors, est-ce que vous... l'ambition après, c'est est-ce qu'il y a déjà une idée de peut-être de faire quelque chose de plus long ou pas?
Alors, pour commencer par la fin,
moi je ferai le début,
ouais. Tu feras le début, ça marche. Et ben, pour la fin, et non, parce que là on est sur la 3e saison, ça sera la dernière. Voilà, pour travailler sur d'autres choses après.
C'est triste.
Ben ouais, mais on a envie de finir, et on pense que on a envie de en fait, ce qui nous intéresse, c'est de raconter vraiment l'histoire de ces gars-là, et on sait qu'on a envie de raconter la fin dans la saison qui vient. Donc voilà, on veut pas étirer. Après, s'il y a des volontés de recréer des histoires dans le même univers et tout, une autre compagnie ou quoi, pourquoi pas. Nous, on n'est pas fermé. En tout cas, Alex et moi, on se dit que là, dans la dernière saison, on va raconter la fin de nos héros. Voilà. Et si tu et Alex
France O qui essaiera de vous contacter pour faire la compagnie créole après, tu vois, sur leur chaîne.
Peut-être, oui, pourquoi pas.
On a un projet de 10 x 52 sur la compagnie créole.
10 x 52 produit par OBS ou comment HOB,
HBO,
HBO.
Non, et puis du coup, si on revient un peu à rebours, Nous, en fait, mais cette comparaison avec Kaamelott, elle est évidente parce qu'on ne pourra jamais dire. Enfin, l'arrivée de Kaamelott à la télé, ça a quand même une espèce de bouleversement dans la manière de raconter de la fiction qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'avant, on avait des formats courts, comme Caméra Café ou des choses comme ça, et encore avant, Un gars, une fille et tout ça, qui sont des choses extrêmement anecdotiques. Là, tout d'un coup, on ancre ça dans une histoire, donc en costume, décor, etc.
Avec des
vrais personnages. Ouais. Et puis, la narration n'est pas la même. Puis, il y a des extérieurs aussi, un petit peu. Donc, il a quand même amené un truc.
Et puis, dans l'écriture, même.
Évidemment, le style qui raconte quand même. Bah parce qu'on est. Lui, il arrive en fait à faire le tour de passe-passe de raconter des choses assez sociétales dans un univers ailleurs. Donc, ça, c'est aussi ça qui est hyper intéressant.
On peut reconnaître, peu importe ce qu'on pense de la famille Astier, qu'ils sont très très forts.
Mais ouais, c'est ça, c'est le soin apporté, le travail apporté qui est absolument.
Et du coup, nous, en fait, on a eu la chance de pouvoir en fait profiter et de cette expérience et de cette expertise parce qu'on nous a offert un produit qu'on n'avait plus qu'à consommer et analyser, en fait. Et donc, c'est vrai que les e-compagnies, quand on a commencé à imaginer le programme comme un programme court, on s'est énormément pas inspiré de, j'ai mais pas envie de dire inspiré, mais en tout cas, moi je me souviens que je m'étais pris du temps de me dire pourquoi ça fonctionne si bien, parce que rythmiquement c'est quand même vachement bien pensé, il y a un prologue, il y a un générique, il y a une situation qui se développe en trois petits extraits, comme un acte 1, un acte 2, un acte 3, avec des ellipses où tout d'un coup on fait un saut et on est un peu plus loin dans le dialogue où les états des personnages sont pas les mêmes, générique de fin et un petit épilogue. Et c'est une gymnastique qu'il a pendant les 3 ou 4 premières saisons, puis après il commence à la casser un peu, mais qui est absolument efficace. Là-dessus, il rajoute des super situations, des bons acteurs et des très bons dialogues, et ça marche vachement bien. Et donc nous, on est quand même parti de ce truc-là beaucoup. Ça ressemblait, nos pilotes, ils ressemblent un peu à ce genre de choses, avec d'autres personnages, d'autres manières de parler, d'autres situations, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ce genre d'objet. Et puis, quand on nous a proposé dès le début de faire un format plus long, en fait, on a trouvé ça vachement bien, mais comme tout d'un coup, j'imagine qu'Alexandre Astier, il a eu l'envie de faire, c'est pour ça qu'il est passé en format 40 ou 42 minutes, ou je sais pas combien ça fait.
Oui, c'est qu'il a envie d'étirer ses personnages.
C'est qu'il a envie de faire des choses plus longues, et puis qu'il a encore son projet d'en faire un long métrage derrière, parce qu'il a envie de... Moi, ça, je le comprends complètement, et c'est assez agréable. Après, nous, là où on fait aussi notre chemin, c'est qu'on a envie d'arrêter notre histoire dans ce format-là. On n'a pas envie de passer par 40 formats différents, faire un long métrage, un machin, un truc derrière avec ça. Si on n'a pas envie, on a envie de dire stop. Et puis de laisser partir ces héros comme on les terminera. Et puis
de faire autre chose après.
Puis d'aller découvrir des nouveaux héros qu'on va inventer, des nouvelles situations, des nouveaux formats. Et puis voilà, on a envie de faire des choses nouvelles.
Oui, c'est bien aussi qu'il y ait une fin.
Est-ce que c'est dans Kaamelott que vous aviez repéré Allemand le Noir qui avait un petit rôle d'aide de camp de Lancelot?
Alors, non, parce que moi, je ne connaissais pas Alban avant de le croiser. Après, on l'a croisé sur un festival où il était jury et je lui avais montré des courts-métrages que j'avais faits. On disait qu'on avait un projet. Puis finalement, c'est organisé une séance de travail avec Alexandre, où je les ai fait travailler tous les deux, puis on s'est dit banco. Et donc, on l'a rencontré après. Et moi, j'ai appris après qu'il était dans Kaamelott.
C'est, il est complètement intégré maintenant, Alban Lenoir, à la dynamique Lazy Company. Il fait partie des gens que vous consultez.
ça c'est radical.
Ça le mérite.
Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le tournage, mais dans les personnes qu'on consulte quand on écrit, quand on a écrit les deux premières saisons, là cette saison, il y a un troisième larron qui nous a rejoint à l'écriture qui s'appelle Maxime Guérin, qui doit être devant la coupe aussi. On écrit vraiment donc là maintenant tous les trois, et les gens qu'on consulte, c'est nos producteurs.
D'accord.
Qui nous sont d'une grande aide, donc c'est hyper important, au moins en tout cas réalisateur, en tout cas qu'on fasse la même série vu qu'on a très peu de temps, très peu de moyens. Et pareil sur le plateau, il y a quasi pas d'improvisation, tout est déjà écrit. Le rythme, là où par exemple des acteurs comme Alban sont hyper précieux, c'est que par contre ils ont compris complètement comment ça se respirait. Et ils arrivent avec un niveau de préparation qui est assez impressionnant. Ce qui fait que tout de suite ils savent qu'ils vont avoir pas 8 prises mais 2. Et donc à la deuxième déjà il faut qu'on soit dans un endroit de travail qui soit bon pour qu'à la troisième qu'on se donne ils puissent encore en rajouter une. Donc, mais c'est le cas de tous les acteurs, c'est pour ça que la série peut se faire, c'est qu'ils ils respirent le truc. Bon, on travaille en amont, mais par contre. Ils reçoivent le script en version terminée. Quoi. Bon, ouais. Ils peuvent, bien sûr, on n'est pas bêtes non plus.
Il y a la discussion derrière. Quand
mais
même.
Voilà.
Ok. Quelques notes de musique et on se retrouve à l'antenne de RCP. RCP. 48 sur Radio Campus Paris. Je ne sais pas ce que l'on vient d'écouter, mais c'était vachement
super bien.
Bien.
Wow.
Le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est
foutu. Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu.
Ouais, je peux dire une chose à faire. On est démodé. Tu comprends? Oh, fasciste!
Il est de retour parmi nous et il va falloir être sympa avec lui, bien qu'il soit lui-même très méchant. Le stagiaire Barnabé, qui est de l'avis de tout son entourage, un sportif émérite, qui ne recule devant aucune partie de pétanque, de molcu ou de baby-foot, s'intéresse cette semaine aux mascottes des compétitions sportives. Coupe du Monde oblige.
Mais quand je te dis le sujet de mes chroniques, il ne faut pas que tu prennes au pied de la lettre, c'est n'importe quoi.
Bah oui, non mais c'est fait exprès, ça crée un effet de décalage entre ce que je dis et ce que tu dis.
Et puis je suis pas toujours de retour, je serai pas éternellement de retour, il y a un moment donné où je serai là, quoi, c'est bon. Quoi.
Bah ça va, t'es parti pendant 3 mois et demi.
Non, si je squatte ici, c'est par pure bonté d'âme. Les agneaux qui broutent de l'anis et qu'on trempe dans la flotte pour faire du gigot au Ricard. Ah, je suis fatigué. J'ai réussi à me traîner mollement jusqu'ici, avec autant de conviction qu'un militant politique qui pourrit son 1er mai sous une banderole, alors qu'il fait chaud à crever, et que tous ses potes à politique, eux, jouissent de l'usufruit d'un beau masque de Gascogne à base de sauna, hammam, bête de benz et putade ou deluxa, qu'on n'a même pas besoin d'épiler pour goûter. Déjà, vous avancez l'horaire de l'émission.
Ouais.
Je me suis fendu d'un tweet sur Twitter pour prévenir ma communauté de fans. Ils m'ont dit qu'ils en avaient rien à taper. Gougnafier d'enfoiros. Ah, sur le coup, j'ai pris la claque de l'année. Mes fans sont ma raison d'être. Je suis comme la Vierge à l'enfant, le papy gâteau, la poule au pot qui cuit en papillote. Je les aime, ces morveaux. On s'échange les vignettes Panini qu'on a en double. Du coup, on se retrouve avec des défenseurs de l'équipe sud-coréenne à plus savoir qu'en foutre. Et on s'arrache les amanites ovoïdes et le larfeuille pour essayer d'avoir Neymar ou Fouleco, la mascotte 2014.
Ah bah tu vois qui vient.
Qui est une sorte de biche tortue dégueulasse avec un ballon de foot sur le haut du crâne, un strabisme à en faire péter le GPS et une langue qui pend comme les bolches de mon tonton. Travaillé par la gravité après un été passé dans le plus simple appareil, jumelle à la main, derrière le buisson adjacent à la pistoche d'un sale camping naturiste pour se rincer la croquette, devant le cul plein de gouda de grosses hollandaises en goguette qui crapahutent dans le golfe du Lion pour sentir le frisson de la tramontane dans leur couloir rodanien.
Oh, celle-là était violente.
Je sais que t'aimes bien quand je fais de la poésie. Vous, les Yankees de la Lazy Company, en 94, vous avez eu Striker, le dog super stylé qui t'attend chaud comme un bourdon pour dribbler tout ce qui passe, foutre un coup de croc dans le cuir de la baballe et pourrir le match. Mais à part ça, mes aïeux, de la panthère fluo,
aux concombres phalliques mexicains, en passant par type étape, les frères chelous siamois allemands. On dirait que depuis 66, ils ont payé le... ils ont payé le trou du cul là, le plus dénoyé du tableau, pour chier une mascotte en trois coups de crayon, une sur une feuille A4, faire un peu de pognon. Même les faussaires qui refourguent les peluches en contrefaçon se démerdent pour rendre ces bestiaux plus bas un peu plus sympathiques. Les pires, ouais. C'était Kaz, Atto et Nick. Les trois saloperies de la Coupe du Monde Japon-Corée. Des sortes de viscosité turgescente affublée de la dentition d'une vieille fille british et sortie tout droit de l'utérus d'un alien qui se serait engrossé tout seul une fournée de bombay caribou dans la doudoune. Qui a envie de laisser son enfant seul dans sa chambre toute une nuit avec une bestiole aussi flippante? Et peut-on parler de Footix? Oui. L'oiseau bleu qui se tripote la bouliche non-stop? Voilà l'été. Vous connaissez mon amour pour les conversations de comptoir, les petits mots qu'on glapit comme un renard d'igno dans un ascenseur moite, histoire de nourrir ce moment d'intense malaise qu'on partage avec Berthe, la secrétaire post-ménopause du service qui sent bon la fin de cycle et passe tous ses week-ends à Coulommiers en attendant de voir venir. Il fait chaud, Berthe, hein? Oh oui, le soleil, Berthe, il cogne. Ah, le soleil, oui, Berthe, il gnaque. Tu vois? L'autre jour, je suis allé faire un petit molcu dans le parc des Buttes Chaumont.
Ah bah voilà, c'est pas bobo du tout, ça, c'est bien.
Vous m'avez bien repéré?
Oui.
J'étais le gros con avec la moustache frisottie, le pantalon retroussé, le t-shirt en coton couleur pastel fabriqué par une obscure boîte de graphistes installée dans un loft hors de prix du 11e arrondissement, en train de taper sur des bouts de bois en riant, chiant à la gueule de toute la misère du monde, buvant à m'en pourrir les ratiches un gros vin bio aussi acide que la piquette des clodos, mais à 15 billets la bouteille, s'il vous plaît. Vous surplombiez le parc du haut de la terrasse de votre appart à 2 millions de boules. De quoi remplir un bon paquet de piscine Ikea. Et vous vous foutiez bien de ma gueule de bobo, hein? Avec une semaine de retard, Thibault, le taulier, a décidé de célébrer le D-Day. Il aurait pu inviter un résistant, un rescapé, un gestapiste, un cosplayer, une castafiore, un cassoulet, une gastation. Et voilà plutôt une bande de franchouillards bien trempés qui osent se taper des barres avec l'héroïsme des ricains. Bravo les gars! Moi, mon grand-père, il aurait aimé votre petit manège. Lui qui conduisait des trains pendant la guerre, il aurait bien ri. Un conseil. La tendance actuelle, c'est la fantaisie. Des ailes de dragon plantées dans un cul qui saigne, quoi. Là, il y a du pognon. Rectifiez le tir. Faites-nous du Lord of Göring. Avec Charles de Gollum et Gandalf Hitler. Ultra lol, non?
Ah, ultra lol, ouais. Merci beaucoup, stagiaire, pour... Je sais même plus si c'est une défense, une purgescence, une éructation. On n'arrive plus à vous caser, c'est...
Un
c'est
P. Terrible.
Un P. Voilà, ce sera juste le P de Barnaby.
À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais quel connard, ce type!
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Il est 19h54 et après que stagiaire ait hurlé dans le micro, nous allons revenir à la Lazy Company avec nos invités en parlant un peu de la réalisation de la série. Alors vous utilisez beaucoup de techniques de réalisation qui sont des techniques que l'on voit assez régulièrement dans les films un peu de genre, films ou séries guerrières. On a une caméra qui tremble beaucoup, il y a des effets sonores, il y a des petits pétards planqués sur la terre qui font sauter des mottes de taupinière pour faire les impacts. Qui des impacts de balles. Est-ce qu'il faut voir cette réalisation comme une parodie du genre, ou est-ce qu'au contraire c'est une réalisation qui vient servir et pas renforcer le côté guerrier de la série?
Bah, en tout cas, j'essaye, et ça se trouve je me plante, de pas être parodique, non. Après, les situations, je les prends pas comme... comme ce qu'elles sont forcément. Par exemple, j'essaye de tirer beaucoup de choses. Je me suis dit que dans les séries françaises, ça parle beaucoup.
C'est vrai.
Et nous, nos personnages sont bavards. D'ailleurs, généralement, ils parlent plus vite qu'ils réfléchissent. Donc, généralement, ils disent des conneries, ils s'en rendent compte après, ils essayent de se rattraper, c'est pire, etc. Et j'ai vachement insisté pour qu'il y ait des passages sans dialogue, des passages musicaux, et juste des passages de
cinéma.
De cinéma, voilà, j'osais pas le dire. Ouais. Mais avec de l'espace, du temps et de la musique. Et en ça, du coup, j'ai plus tiré, par exemple, vers le western. Donc, bizarrement, forcément, il y a certaines scènes qui demande, on a zéro moyen, donc un peu de bricole et tout pour arriver à croire à la situation, en tout cas à l'accepter. On sait qu'on est dans une série, justement, qu'on n'est pas dans Band of Brothers ou quoi. Mais il faut qu'on y croit pour que les choses deviennent drôles ou touchantes. Et là-dedans, en plus, j'essaye de redécaler la chose. Donc, on est dans une série qui n'a pas d'argent. Les champs contre champs ne sont pas foncièrement des champs contre champs trois quarts avec deux caméras qui tournent pour pouvoir passer à la suite. Je force à faire des choses un peu plus faces, donc on perd du temps sur certaines choses. Donc je me dis pas je vais parodier, mais en tout cas je vais lui donner une âme et je vais essayer que ça serve à mort la situation émotionnelle ou la situation comique que j'ai envie de filmer. Donc non, je fonce pas vers la parodie. Par contre on utilise des trucs parce qu'on a on a pas, par exemple tu dis qu'il y a des impacts au sol et tout, il y en a presque pas en fait. Toute la on tourne en shutter dur, ça veut dire avec une image qui s'ouvre et qui se referme beaucoup plus vite, ce qui fait qu'on a l'impression que les choses se cristallisent un peu comme dans Gladiator, le sens, vous voyez,
ça permet
fait,
de ralentir,
t'as l'impression de voir plein de gouttes.
Ouais,
en tout cas t'as l'impression que les choses se cristallisent dans le, et on jette beaucoup de terreau, voilà. Donc ça c'est une astuce si vous voulez faire un court métrage, hein. Et du coup il y a très peu d'impacts qui sortent parce que les impacts coûtent très cher et puis il faut les caler et c'est assez compliqué. Donc après c'est beaucoup d'astuces, mais voilà, par exemple il y a beaucoup d'épisodes qui sont tirés plus vers le western. Et d'autres, par exemple, il y a un épisode comédie musicale dans la saison 1.
J'allais en parler justement, mais il y a comédie musicale, il y a un truc qui ressemble à un film de zombies, ouais. Vous allez dans des genres cinématographiques tout au long de la saison 2.
Ouais, et c'est pas des... C'est... Enfin, moi, je les prends pas comme des parodies, ça veut dire c'est un chemin, on est dans une série, on se dit on est dans une série télé, on est dans une comédie, donc forcément, on va essayer aussi des choses, quoi. Donc on est... Mais par exemple, notre épisode un petit peu... qui pourrait être un peu gothique, ouais. Finalement, ça va être l'épisode le plus romantique de la saison, presque.
Vous, Alexandre, vous réveillez les morts.
Oui, ça m'arrive.
Il réveille les filles.
Les filles, bien sûr.
Mais ce que disait Samuel, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on quand on écrit une histoire, on se dit pas ah, faut absolument qu'on ait un épisode de zombies là, ça c'est vachement à la mode en ce moment. C'est plus dans le cheminement de notre histoire où effectivement, on se retrouve à un moment où notre héros n'est pas allé au bout de son histoire d'amour parce qu'elle est morte. Donc il se dit qu'est-ce qu'il va faire, il va falloir qu'il la réveille. Et donc qu'est-ce qu'on a fait, on a amené un petit truc de fantastique et on s'est dit on va s'amuser d'aller encore plus loin dans ce truc de fantastique, mais finalement ça ne sert que notre histoire pour qu'il puisse aller jusqu'au bout en réveillant ce personnage qui est mort. Il va jusqu'au bout de son histoire d'amour, ce moment romantique, il arrive à clore cette partie de son histoire et on arrive donc à la fin de notre épisode 3 de la saison 2 où on a le personnage de Nils qui dit, enfin qui est prêt à partir vers autre chose, quoi, vu qu'il a enfin fait le deuil de cette chose là
et d'ailleurs un mot rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission sur les personnages féminins de la Lazy Company. Elles sont nombreuses, c'est toutes des personnages comme ça un peu fofolles comme ça. On a une dame qui a un côté un peu SM, on a cette personnage de général complètement dingue. C'est les personnages féminins sont aussi importants, et d'ailleurs quasiment tous les quatre héros tombent amoureux à un moment ou à un autre dans la série.
Elles affirment quelque chose, elles sont pas forcément hystériques, moi je dirais même qu'elles sont vachement plus les pieds sur terre que tous les garçons de la série, parce que
une résistante aussi qui est
ouais. Et heureusement qu'elle est là parce que ouais, sans elle en fait je pense qu'ils sont foutus. Je crois qu'elle leur sauve la vie, en fait.
Plusieurs fois.
Ouais.
Plusieurs fois, oui.
C'est vrai. C'est maintenant la fin de cet épisode de Garde à vue. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en direct du Central et en public, cette fois-ci. Pour découvrir les coulisses de l'émission, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de la radio. Merci à mes très chers collègues, Maître Rollo, Barnabé, notre stagiaire, Mathieu à la technique. Et merci à nos invités, Samuel Rollin et Alexandre Philippe, créateurs de la série The Lazy Company, diffusée sur OCS. Merci. Messieurs,
merci.
Merci.
Très bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.